Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Le standard est ouvert, mais suite au mouvement social que traverse Radio France, nous ne pourrons vous donner la parole à l'antenne en direct. C'est moi qui lirai vos questions. Vous pouvez par ailleurs passer par les réseaux sociaux et l'application mobile d'Inter. Marlène Schiappa, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être à notre micro. Hier, c'était la clôture du Grenelle contre les violences conjugales. Depuis le début du mois de septembre, associations, spécialistes, acteurs de terrain ont pu échanger, travailler sur les multiples facettes d'une réalité qui continue à tuer en France. 117 féminicides jusqu'à présent en 2019. On va entrer dans le détail des mesures comme l'introduction de l'emprise dans le code pénal, le renforcement du numéro 3919, la question de la levée du secret médical, il y en a bien d'autres. Mais un mot d'abord sur l'esprit de ce Grenelle, Marlène Schiappa. L'enjeu pour vous, c'était de montrer que les violences faites aux femmes sont désormais au cœur des préoccupations du gouvernement et même de chaque ministère. C'était la mobilisation générale, en somme.
Oui, c'est tout à fait ça. Vous l'avez très bien dit. C'est une mobilisation générale puisque ce Grenelle, il a eu lieu en trois temps. Un premier temps de mobilisation donc autour du Premier ministre avec 12 à 15 ministres, mais aussi le président de l'Association des maires de France, François Baroin, des soignants, des représentants de la gendarmerie, de la police, de la justice, des associations, des familles de victimes de féminicides. Il y a eu un deuxième temps de construction où toutes ces personnes ensemble ont travaillé. Il y a eu 4500 participants dans 11 groupes de travail à proposer des mesures. Et là, depuis hier, nous sommes dans le temps de la mise en action. Et donc, chaque jour, avec un ministre en charge d'un sujet, nous mettons en action la cinquantaine de mesures annoncées par le Premier ministre.
On va les détailler, ces mesures. On va en parler très, très longuement. Mais dites-nous d'un mot. Quand ces mesures vont-elles porter leurs fruits, selon vous? En Espagne, le plan qu'ils ont lancé a eu une efficacité massive. Le nombre de femmes tuées a diminué drastiquement. Pensez-vous que ces mesures, vos mesures, celles que vous avez annoncées, auront en France un effet, je ne sais pas, l'année prochaine, celle d'après? Est-ce qu'on verra dans les prochains mois, dans les prochaines années, ce nombre atroce de morts de femmes baisser de manière significative?
Moi, vous savez, c'est évidemment la volonté du gouvernement et c'est évidemment mon engagement, mais je trouve que le sujet... Je l'aborde avec méthode et avec sérieux. Et le sujet, il est trop sérieux pour que quelques membres du gouvernement, de quelques gouvernements que ce soit, vous promettent, oui, à telle date, nous allons avoir tant de féminicides. Parce que là, on est dans quelque chose, on n'est pas dans des chiffres, on est dans l'humain, on n'est pas dans quelque chose de mécanique. Moi, tout ce que je peux promettre et tout ce à quoi je peux m'engager, c'est de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour créer toutes les conditions pour mieux protéger les femmes. Il y a des mesures qui sont déjà entrées en vigueur, d'autres qui entrent en vigueur ces jours-ci, d'autres qui vont passer par la loi, donc ce sera à partir de janvier 2020. Mais en tout cas, en Espagne, ils ont pris ce sujet à bras-le-corps en 2004. Et donc, ils ont eu des résultats, mais au long cours, nous sommes en 2019. Nous, ça fait à peine quelques mois qu'il y a eu ce Grenelle des violences conjugales. La grande cause du quinquennat pour l'égalité femmes-hommes, c'était 2017. Des choses ont été faites avant par les précédents gouvernements. Je ne dis pas que rien n'a été fait, mais je crois que la société commence à peine maintenant à prendre la mesure de l'ampleur des violences conjugales et à cesser de considérer que ce sont des faits privés, une fatalité, que ça ne nous regarde pas.
Édouard Philippe souhaite, il l'a dit hier, permettre aux médecins de déroger au secret médical en cas d'urgence absolue pour la victime. Vous allez rencontrer l'ordre des médecins. Est-ce que la procédure va être codifiée ou est-ce qu'elle sera laissée à l'appréciation de chaque médecin ?
Oui, je vois juste après la matinale de France Inter le président de l'ordre des médecins et nous allons travailler ensemble, et bien sûr avec la ministre de la Santé et les ministres de la Justice, à une rédaction qui s'approche d'un objectif qui a été défini par le Premier ministre. Cet objectif, c'est un, préserver le principe du secret médical, parce que le lien de confiance patient-soignant, il passe aussi par ce secret médical, mais de faire en sorte que quand un soignant a connaissance d'un danger de mort imminente pour une femme, il puisse faire un signalement sans avoir de réprobation de la part de sa hiérarchie. Et donc cela, ce sera laissé à l'appréciation du soignant qui est un professionnel et qui est fondé à identifier quand il y a un danger.
Ça fait grincer des dents chez les médecins, cette mesure. Oui. Elle est délicate. Gilles Lazimi, médecin, membre de SOS Femmes 93 et du collectif féministe contre le viol, dit sur le sujet que c'est une fausse bonne mesure, qu'il y a un risque de briser la confiance alors que le médecin est le premier recours. Je le cite, on ne doit pas prendre les décisions à la place des femmes car si vous prenez les décisions à leur place, elles vont fuir, elles vont dire jamais de la vie je retourne chez ce médecin.
Moi j'écoute toujours ce que dit Gilles Lazimi, c'est un expert de ces sujets et un professionnel de terrain, donc j'écoute vraiment ce qu'il nous dit, mais J'ai un désaccord sur l'approche. Je comprends qu'on se dise les femmes ne vont plus avoir confiance, mais c'est la raison pour laquelle on préserve le secret médical. Mais moi, je crois que quand une vie de femme est en danger, la priorité, c'est sauver la vie de cette femme. Quand vous voyez une femme qui a la mâchoire multiplement fracturée, qui a la langue déchirée, comme certaines l'ont raconté, qui vient d'être tabassée et qu'elle repart chez elle avec son mari violent, qui l'a menacée de mort en lui disant « si tu reviens, je termine le travail », ce sont des mots qu'on a déjà entendus. D'accord. Je crois que c'est la responsabilité de chacun de faire un signalement au procureur en prévenant la femme, bien évidemment, il ne s'agit pas de faire quoi que ce soit.
Et si elle dit non? Si elle dit non au médecin, elle dit « je ne veux pas que vous portiez
plainte ». Moi, vous savez, Salamé, je crois que chacun doit prendre ses responsabilités. Et je pense qu'on ne peut pas dire « maintenant, on va tous transformer la société et éradiquer les violences conjugales, mais il faut surtout bousculer aucune habitude, aucun process, et il ne faut rien changer ». Non, il y a des choses
donc
qu'on va
changer. Donc vous dites au médecin, même si la femme vous dit « non, ne le faites pas, faites-le », parce qu'il en va de votre responsabilité.
Moi, je ne dis rien au médecin. Ma responsabilité, ce n'est pas de faire à la place des médecins. Ma responsabilité, c'est créer et conduire des politiques publiques. Et il y a une politique publique que nous conduisons, c'est celle de la tolérance zéro, du principe de précaution. Et oui, quand une femme est en danger de mort et qu'on sait qu'un tueur l'attend chez elle, je crois que c'est une responsabilité citoyenne de faire en sorte que cette femme ne soit pas tuée.
Sur différents points, Marlène Schiappa, la réaction des associations est extrêmement vive. Oser le féminisme, dans un communiqué, prend les certaines annonces qui ont été faites hier par le Premier ministre et dit, et je cite ce communiqué, que la formation des enseignants sur la question des violences sexistes est prévue dans la loi depuis 2010, que l'interdiction pour le juge de proposer une médiation entre un conjoint violent et sa victime est obligatoire depuis 2014, que même la grille d'évaluation mise à disposition des commissariats est censée aider les forces de police à prendre en charge les victimes correctement, que même ça, donc, n'est pas une nouveauté. Et ces associations vous reprochent donc d'avoir recyclé un certain nombre de choses qui existaient déjà et qui n'étaient pas appliquées et de les présenter comme des nouveautés. Que leur répondez-vous ?
Plusieurs choses. D'abord, il y a effectivement des associations qui font part de leur mécontentement. Il y a des associations qui systématiquement sont en opposition au gouvernement. Et pourquoi pas, chacun a le droit d'avoir le positionnement qu'il souhaite avoir. Il y a aussi énormément d'associations qui ont participé au Grenelle des violences conjugales. Ce n'est pas le cas d'Oser le féminisme. Mais il y a des dizaines d'associations qui ont pris part à ce Grenelle des violences conjugales et qui en sont ressorties très satisfaites. La Fédération nationale Solidarité Femmes à Matignon nous a dit que c'était pour elle un moment fort qui allait changer les choses. Marie Servetti, la présidente d'une femme un toit, a dit que c'était une démarche courageuse. Même la Fondation des femmes, qui est mitigée sur certaines mesures, a salué globalement de très grandes avancées menées par le gouvernement. Donc je pense qu'il faut regarder les choses avec précision. Sur les mesures, il y a effectivement des mesures qui sont de nature à renforcer quelque chose qui existe déjà, comme nous l'avons fait dans le passé. Par exemple, et je suis très rapide là-dessus, la loi prévoit depuis 2001 3 séances d'éducation à la vie affective et sexuelle par an. Cette loi, elle n'était pas mise en œuvre. Une loi de 2001, elle a été mise en œuvre en 2018 par Jean-Michel Blanquer et moi. Et pour tout ce que vous avez cité, ce sont des choses qui ne sont pas assez spécifiées dans la loi et donc qui ne sont pas appliquées par les professionnels de terrain. Je rappelle que ces mesures, nous ne les avons pas décidées, Édouard Philippe et moi, dans son bureau. Elles ont été décidées pendant 3 mois de process de construction commun avec les professionnels de terrain qui les ont demandées.
Marlène Schiappa, vous avez raison, il y a beaucoup d'associations qui ont dit qu'il y avait quelque chose qui avait clairement été fait avec ce Grenelle contre les violences faites aux femmes. Mais la plupart, de manière écrasante, des associations ont un bémol, un grand bémol qui s'appelle l'argent. Elles disent toutes qu'il n'y a pas d'argent, le compte n'y est pas. Je cite « Nous toutes, Caroline Dehas, c'est un montage de communication, un mensonge, c'est un scandale, le budget n'augmente pas. Si le budget n'augmente pas, les féminicides ne reculeront pas. » Ils dénoncent une escroquerie dans les chiffres avancés.
N'ayons pas peur des mots.
Caroline Dehas, ce n'est pas moi.
Mais n'ayons pas peur des mots.
Elle n'a pas peur des mots, mais vous le sonnant est trébuchant. Je peux vous citer beaucoup d'autres associations qui ont dit la même chose. N'y est pas, le compte n'y est pas.
D'abord, je pense qu'il faut être un peu rationnel dans ce débat. Je comprends que ce soit un débat qui génère énormément de colère. Moi, cette colère, je la partage. C'est le moteur de mon engagement. C'est pour ça que je me suis engagée en politique. C'est parce que je suis révoltée par la situation des femmes dans notre pays et dans le monde en général. Maintenant, je pense que la décence appelle de faire attention aussi aux mots que l'on emploie. Parler d'escroquerie, pardon, mais pour moi, c'est aller quand même un tout petit peu trop loin. Et j'ai pourtant beaucoup de respect pour ce que fait ce collectif qui a organisé une grande marche samedi qu'on peut saluer et à laquelle on peut adresser un message de solidarité. Le budget, il est de 1,116 milliard d'euros pour 2020. Ce n'est pas moi, Marlène Schiappa, qui le dit, c'est la direction du budget de l'État. La direction de Bercy, elle n'est pas réputée pour être extraordinairement féministe ni pour lâcher de l'argent.
Mais la construction de ce budget est contestée. On va y venir, mais je vous laisse finir votre phrase.
Oui, on peut, mais à un moment, on peut faire aussi deux secondes de finances publiques. La construction de ce budget, c'est un DPT, un document de politique transversale. Ça existe depuis des années. Ça n'a pas été inauguré maintenant. Et ça se fait pour plein de sujets, pour l'écologie, pour le handicap, pour les outre-mer. Il s'agit simplement de regarder dans tous les ministères ce qui est engagé pour l'égalité femmes-hommes. Et ça nous amène pour 2020, source direction du budget de l'État de la France, à 1,116 milliards d'euros qu'on peut détailler,
oui,
si vous le souhaitez.
Alors on va le détailler tout de suite, Marlène Schiappa, sur ce chiffre symbolique de plus d'un milliard d'euros. Ouais. Eh bien, il y a 834 millions d'euros qui vont à la solidarité et à l'aide économique aux pays en développement. Ouais. En clair, qui vont, et c'est très bien, hein, à l'aide au développement et aux femmes probablement dans les pays en voie de développement.
Ouais,
mais si moi je suis une association qui lutte en France contre les violences faites aux femmes, le chiffre d'un milliard, est-ce qu'il n'est pas un peu tronqué vu que ça va à l'étranger pour d'autres femmes ? Là, on parle des violences faites aux femmes.
Bien sûr. Ça nous montre à quel point le débat du milliard, j'ai entendu le premier sur votre antenne parler de fétichisme du milliard, mais ça nous montre à quel point le débat sur un milliard ou pas un milliard, en fait, il est inopérant au concret. La vraie question, c'est y a-t-il assez d'argent sur le terrain ? Moi, je vais vous donner deux exemples. Ma réponse, c'est oui, on peut toujours mettre plus d'argent et on sait toujours quoi faire de plus d'argent. Vous savez, moi, le budget, je n'ai eu de cesse de le faire augmenter. Depuis 2012, il a été multiplié par deux. J'ai rajouté 800 000 euros pour les Outre-mer. J'ai rajouté 5 millions d'euros de ma collègue du ministère de la Justice pour les bracelets anti-rapprochement. 4 millions d'euros pour les campagnes de prévention qui interpellent les témoins. 1 million d'euros pour créer le fonds Catherine contre les féminicides qui vient en réparation pour des toutes petites associations ultra-locales. Mais moi, je suis très fière que la France soit le premier pays du monde à financer le fonds Mukwege, du co-prix Nobel de la paix Denis Mukwege, qui répare les femmes victimes de violences sexuelles et de viols de guerre au Congo et à accueillir par exemple des femmes yézidis, comme le demande
évidemment,
le co-prix Nobel de la paix.
Personne ne va dire le contraire, mais les associations disent qu'en gros, ça ne sert à rien de parler de milliards parce que ce n'est pas un milliard pour les violences faites aux femmes, c'est à peu près 300
mais
millions.
Parlons de ce qui est concrètement sur le terrain. Concrètement, aucune association nationale qui accueille des femmes victimes de violences conjugales n'a eu de baisse de subvention. Au contraire, il y a eu en moyenne une augmentation de plus 21%. Et ça, c'est concret et c'est vrai. Aucune association, vous ne trouverez en France, aucune association nationale dont le travail et l'accueil et l'accompagnement des femmes victimes de violences conjugales qui, de la part de mon ministère, n'est une baisse. Il y a eu plus 20%. Et sur les moyens, j'en termine là, on voit que parfois, ça n'est pas une question de moyens, mais de volonté politique. Les téléphones graves danger sont financés par l'État. Le financement a été augmenté et sécurisé par Nicole Belloubet et moi-même. Mais un tiers des téléphones graves danger ne sont pas attribués faute de décision de justice, faute de volonté, donc, et pas faute de moyens.
Une question supplémentaire sur les moyens, et là, vous l'avez déjà cité, mais plus précisément, le député LR Aurélien Pradier demande, vous pose la question suivante, où sont les 5 millions nécessaires pour déployer les bracelets anti-rapprochement ? Sur ce point-là très précis, ce budget-là très précis, quelle est
bien
votre
sûr.
Réponse ?
Eh bien, tout simplement, ils sont dans le budget de la justice. Vous savez que
donc, ils sont là, c'est ça ce que vous
bien
répondez ?
Bien évidemment, il y a d'abord 5 millions et quelques engagés pour la création et la mise en œuvre. Vous savez, pour être un peu technique, deux secondes, mais pour répondre précisément à la question, une fois que les bracelets éloignement de l'ex-conjoint violent sont votés, il faut ensuite les mettre en œuvre. Pour les mettre en œuvre, il faut passer par un marché public. C'est-à-dire qu'il y aura un appel d'offres, etc., qui sera ensuite étudié par une commission indépendante. Et pour cela, il y a 5 millions d'euros du ministère de la Justice et ensuite en prévisionnel, 1,8 million d'euros par an pour faire fonctionner ces bracelets d'éloignement.
Dernière question avant que Nicolas vous lise les questions d'auditeurs.
Avec plaisir.
Parce que vous n'entendrez pas leur voix ce matin.
Dommage.
Il y avait une option pour permettre aux femmes de porter plainte à l'hôpital.
Oui.
Je ne l'ai pas entendu dans les propositions du Premier ministre.
Non, parce qu'il l'a déjà annoncé le 3 septembre. Alors, on l'accuse déjà de recycler des choses. Donc, il y a eu une douzaine d'annonces très fortes qui ont été menées le 3 septembre sur la question de la déchéance de l'autorité parentale pour les conjoints violents. Le fait que maintenant, l'État va se porter garant pour les femmes victimes de violences qui veulent louer un appartement. C'est important, je me permets de le dire à votre micro, parce que c'est déjà en œuvre. Une femme qui est victime de violences conjugales qui veut louer un appartement, via le dispositif Visale Action Logement, l'État se porte garant pour elle, pour qu'elle puisse relouer un appart.
À partir de quand on va pouvoir porter plainte à
Alors,
l'hôpital ?
Alors, il faut qu'il y ait des conventions. Donc, il y a déjà certains endroits dans lesquels c'est possible, qui sont expérimentaux et qui l'ont lancé. C'est le cas, par exemple, à la Maison des Femmes, qui n'est pas à proprement parler un hôpital, mais qui est un lieu où on peut soigner les femmes en Seine-Saint-Denis, mais également avoir accès à des OPJ et déposer des plaintes. Et il faut que des conventions soient menées entre le ministère de la Santé et le ministère de l'Intérieur. Mes deux collègues qui étaient là hier à la fin du Grenelle des violences conjugales sont mobilisés là-dessus. Je souhaite que ça se fasse le plus vite possible.
Alors, plusieurs questions questions d'auditeurs et d'auditrices pour vous, Marlène Schiappa. La première est de Roxane, le divorce. Elle parle du divorce pour violence conjugale. On a tout perdu, dit-elle, mais on est soumis à lui verser une prestation compensatoire si on a un salaire plus élevé que lui. C'est injuste vu que l'on est parti du domicile. Témoignage, que pouvez-vous répondre à Roxane ?
C'est absolument terrible. Et j'ai rencontré une femme dans le Nord, je ne me souviens plus de la ville exactement, mais qui a vécu exactement ça. Son mari lui a été auteur de violences psychologiques gravissimes et de violences physiques très graves qui l'ont envoyé à l'hôpital des semaines. Et elle a été condamnée au moment du divorce à devoir lui payer une pension alimentaire, une prestation compensatoire, parce que ce monsieur de toute façon vivait à ses crochets. Je trouve ça tout à fait scandaleux. Nous allons ouvrir une loi en janvier, l'étudier en commission puis à l'Assemblée nationale avec les députés. Je souhaite que nous puissions travailler là-dessus, travailler également sur la question de l'aide alimentaire. Vous savez, il y a des gens qui ont 40-50 ans, quelqu'un frappe à leur porte et leur dit « Bonjour, c'est un huissier, vous devez prendre en charge les frais de vie de votre père qui a tué votre mère, dont vous n'aviez pas de nouvelles, qui est en prison, qui vient de sortir. Et bien maintenant, c'est à vous de le prendre en charge financièrement. » Ça, nous allons y mettre fin aussi.
Sylvie vous demande la chose suivante. Qu'est-ce qui va être mis en œuvre pour la formation des gendarmes pour soutenir les femmes qui subissent des violences ?
J'étais à Chaumont vendredi avec Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, à l'école de gendarmerie pour lancer justement les formations. Désormais et depuis cette année, il y a 130 heures de formation contre les violences sexistes et sexuelles dans le parcours de chaque gendarme, formation théorique et pratique avec des mises en situation, cette grille d'évaluation du danger et un protocole d'accueil pour que les femmes soient bien accueillies et que les policiers puissent mener le début de la prise de plainte et la qualifier, la transmettre au parquet correctement.
Une question de Mathieu, comment se fait-il que la ligne d'appel pour les violences faites aux femmes n'a pas été ouverte dès le début, 24 heures sur 24. Pourquoi faire les choses à moitié? Qu'est-ce que cela coûte à l'État?
Alors d'abord, cette ligne, elle a été ouverte il y a une dizaine d'années et je pense, et je ne suis pas porte-parole des précédents gouvernements, mais j'imagine qu'à l'époque, l'idée était de déjà proposer un premier service et une première ouverture. Et donc nous souhaitons maintenant l'ouvrir 24 heures sur 24. D'abord, nous avons souhaité faire connaître cette ligne. Le 39-19, avant le Grenelle des violences conjugales, c'est 8% de la population seulement qui le connaît. Après le Grenelle des violences conjugales, c'est 59% de la population qui connaît le 39-19. Et je me permets de citer aussi à votre antenne la plateforme de dialogue avec les policiers et les gendarmes qui s'appelle arrêtonslesviolences.gouv.fr. Vous avez deux unités 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de policiers et de gendarmes formés pour cela, qui peuvent vous écouter, dialoguer avec vous et préparer une plainte si c'est votre souhait de façon anonyme.
Encore deux questions très précises et très importantes sur l'application de France Inter. Claire vous demande la chose suivante. Madame Schiappa, au Québec, la police, une tierce personne, pardon, peut porter plainte à la police à la place des victimes. À quand cette mesure en France ?
Ce qui est possible, c'est que les tierces personnes fassent des signalements, et notamment des signalements au procureur quand ce sont des personnes dépositaires de l'autorité. Et je pense que c'est extrêmement important, et ces personnes peuvent signaler les faits à la police. C'est très important. Et ça, c'est un changement de mœurs. Quand on entend un cambriolage chez les voisins, très souvent, on fait le 17, on appelle la police ou la gendarmerie. Moi, je voudrais que quand on entend des violences conjugales chez les voisins, on appelle la police, on appelle la gendarmerie, on signale ces violences.
Et même question, même thématique, en tout cas de la part de Sophie, si un employé sait que sa collègue subit du harcèlement dans sa vie privée, doit-il en faire part à son employeur ? Je balance, dit Sophie, entre respect de la vie privée et protection de la personne. Marlène Schiappa.
Sincèrement, je ne suis pas certaine que l'employeur soit la bonne personne. En revanche, nous mettons en œuvre des référents sur la question des violences sexistes et sexuelles dans les entreprises. Mais encore une fois, pour moi, c'est un dialogue avec cette personne, peut-être un signalement à la police, mais peut-être aussi s'adresser aux associations. On parle beaucoup des associations en disant « elles veulent de l'argent, etc. » Mais les associations, elles tiennent un rôle vraiment important d'accompagnement des femmes. Il y a les CIDFF, il y en a partout en France, Centre d'information des droits des femmes et des familles. Il y a les Fédérations nationales Solidarité Femmes, le collectif féministe contre le viol, le FIT Une femme, un toit. Il y a comme ça pléthore d'associations, y compris locales, qui peuvent faire ce travail d'accompagnement des femmes pour voir avec elles quelle est la solution.
Vous dites ce matin à ceux qui nous écoutent et qui sont témoins parfois d'un cas de violence faite à une femme dans leur boulot ou dans leur voisinage. Parfois on entend des choses dans l'appartement du dessus ou l'appartement du dessous. Vous dites quoi? Il faut y aller vite, il faut appeler. Si on ne le fait pas, c'est non-assistance à personne en danger ou c'est leur vie privée, on s'en
mêle
pas?
Non, c'est évidemment pas leur vie privée et c'est ça tout le changement culturel qu'on essaye d'opérer. Il y a deux choses très importantes. La première, c'est cesser de blâmer les victimes, qu'il s'agisse de Marie Trintignant, qu'il s'agisse d'Alexia Daval, qu'il s'agisse de n'importe quelle autre femme. Cesser de dire, elle était ingérable, elle avait un caractère difficile, peut-être qu'elle l'a cherché, peut-être que si elle reste, c'est qu'elle aime les coups, etc. Non. Et deuxième chose, considérer que les violences conjugales ne sont jamais des affaires privées, mais toujours des enjeux importants, vitaux, qu'il faut signaler effectivement à la police et à la gendarmerie.
Adèle Haenel a dit dans son témoignage très fort vidéo à Mediapart n'avoir jamais pensé à aller en justice. La justice nous ignore, alors on ignore la justice. Est-ce que vous la comprenez ?
Bien sûr, en tant que femme, je la comprends. Mais c'est pour ça qu'on est mobilisé au gouvernement pour faire en sorte que cela change. Moi, je ne suis pas pour l'injonction à porter plainte vis-à-vis des femmes. Je pense que les témoins.
Nicole Belloubet, elle lui a conseillé d'aller porter plainte.
Nicole Belloubet, ministre de la Justice, elle est dans son rôle. C'est évidemment normal. Si la ministre de la Justice disait porter plainte ne sert à rien, ce serait très inquiétant.
Et vous, vous dites quoi? Porter plainte ne sert à rien?
Non, moi, je dis que, à l'heure actuelle, je fais le constat que 1% des violeurs seulement sont en prison. Et donc, je comprends les femmes qui ne veulent pas judiciariser et que je ne serai jamais dans l'injonction vis-à-vis des victimes de leur dire « vous devez porter plainte ». Il y a des victimes qui ne sont pas prêtes à porter plainte, qui ne sont pas psychologiquement en capacité d'assumer une judiciarisation ou qui n'y croient pas, et je ne suis personne pour leur faire une injonction à la plainte. Néanmoins, ma responsabilité, c'est de créer toutes les conditions pour qu'elles puissent porter plainte et que ça puisse être judiciarisé.
Bien des affaires de harcèlement ou de violence sortent ces derniers temps, encore on entendait Sandrine Bonnaire hier, sortent dans la presse ou sur les réseaux sociaux. Ça a été le cas d'Adèle Haenel. Et l'homme, parfois le nom est lancé, dans le cas d'Adèle Haenel, on sait que c'est un réalisateur qui s'appelle Christophe Ruggia, il est cloué au pilori, il y a, certains dénoncent, un tribunal médiatique, c'est-à-dire que l'homme est mort socialement alors qu'il n'y a pas eu de procès. Est-ce que dans ces affaires, la présomption d'innocence existe toujours ou au fond, on s'en fiche?
Il faut que la présomption d'innocence existe toujours, mais on est là aux confins de deux grands principes de notre droit et principes... j'allais dire moraux, c'est pas le terme, mais on a la présomption d'innocence, mais on a aussi le fait de croire la parole des femmes. Et donc je crois qu'il est important de ne pas forcément relayer les noms tant qu'il n'y a pas eu de procès, de bien sûr s'attacher à la présomption d'innocence, mais de s'attacher aussi à croire la parole des femmes. Et pour cela, la réponse, c'est justement la justice. Et je crois évidemment que Twitter n'est pas un tribunal et ne doit pas le devenir. Principe fondateur de notre droit, c'est aussi le procès contradictoire. J'étais hier au tribunal de Créteil avec le président de la République et la ministre de la Justice. Et chacun s'attachait à dire qu'il faut absolument protéger les femmes, mais bien évidemment dans le respect des principes fondateurs du droit.
Le Figaro annonce ce matin, Marlène Schiappa, que dans la future réforme des retraites, les maires pourraient être les grandes perdantes, notamment les mères de 2 ou 3 enfants. Aujourd'hui, les mères de famille qui travaillent dans le privé bénéficient de 8 trimestres par enfant, avec une majoration de 10% pour les deux parents à partir du 3e enfant. Dans le nouveau système, ce dispositif va disparaître. Les simulations que fait le Figaro montrent, je donne les chiffres, c'est oui, technique, mais c'est important, montrent que pour une femme qui gagne 15 000 euros par an, la perte serait de 750 euros par an avec un enfant, de 1663 euros avec 2 enfants. Pour les familles de 3 enfants, la perte serait d'une ampleur exceptionnelle. Alors, est-ce que les mères de famille vont être les grandes perdantes de cette réforme des retraites ?
Deux choses. D'abord, la première, moi je suis toujours un peu surprise qu'on puisse se lancer dans des simulations alors que la réforme des retraites n'est pas votée, n'est pas actée et qu'elle est encore en cours de discussion avec l'ensemble des partenaires sociaux. Donc là, personne ne peut dire avec certitude voilà ce vers quoi va la réforme des retraites. Il y a une discussion...
C'est l'Institut de la Protection Sociale, dont le Figaro...
Qui se base sur les déclarations de Jean-Paul Delevoye qui a dit que ce système-là, le dispositif actuel qui permet aux femmes de famille, aux mères de famille d'avoir, de compenser avec une certaine somme pour leur pension de retraite, va disparaître. Delevoye le dit, il parle d'un bonus de 5%, donc il donne des détails.
Alors, ce qu'il a dit, bien sûr, mais on est encore, là encore, dans une base de discussion. La réforme n'est pas encore mise en œuvre, ni même actée, puisque la discussion a également lieu. Ce qu'a dit Jean-Paul Delevoye aussi, et surtout, c'est que désormais, dès le premier enfant, cela s'appliquerait. Et donc, que ça ne s'appliquerait pas nécessairement uniquement aux mères de familles nombreuses, mais que dès le premier enfant, les mères seront prises en compte. Et ensuite, je vous invite aussi à regarder le propos de Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, qui s'est exprimé là-dessus. Nous faisons le constat qu'il y a un écart de pension de retraite entre les femmes et les hommes extraordinaire, l'un des plus grands d'Europe en France. Et ça, c'est inadmissible. Et la réforme des retraites, elle devra pouvoir corriger cela, y compris en correctif dans le cadre de cette réforme.
Allez, dernière question, les municipales. Benjamin Griveaux a dévoilé les premières têtes de liste d'arrondissement à Paris. On a parlé de vous dans le 14e cet été. Vous serez candidate? Vous y allez?
Honnêtement, je ne sais pas encore si je serai candidate. Je soutiens Benjamin Griveaux. J'ai terminé ma journée hier à partir de 22h30 au grand quartier libre géant organisé par Benjamin Griveaux. Il y a beaucoup de monde, beaucoup d'enthousiasme.
Oui, mais vous...
Je soutiens son projet. Moi, honnêtement, sincèrement, les derniers mois, j'étais vraiment sur le Grenelle des violences violences conjugales avec pas une seconde de temps de cerveau disponible pour m'interroger sur ma candidature. Maintenant, je vais commencer à y réfléchir.
Donc, c'est pas acté.
C'est pas acté. Il y a beaucoup d'endroits en France très intéressants.
Ah bon ? Comme quoi ?
Bah moi, je suis élue du Mans, je suis originaire de Corse, je suis attachée au destin de Lille, qui est mon île familiale. Je suis aussi très attachée à Paris, où je suis née, où je vis.
Ah oui, il y a plein de possibilités pour vous, Marlène Schiappa, pour être candidate à la municipale.
La vie est une succession de possibilités.
Merci Marlène Schiappa d'avoir été au micro d'Inter. Et mes excuses aux auditeurs qui me l'ont fait savoir. J'ai dit 117 féminicides depuis le début de l'année 2019. C'est 138.
Alors c'est 117 selon l'AFP, 138 d'après un décompte associatif. Dans tous les cas, c'est trop.
Voilà, exactement. En tout cas, je tenais à faire la précision et à présenter mes excuses. Merci encore.
Merci
le Carrefour du 7-9 à suivre.